Au point de passage de la rivière, le château occupe un étroit éperon de confluence sur la rive gauche de la Couze Pavin. En 1225, le dauphin d'Auvergne cède château et seigneurie au seigneur de Champey en échange des possessions de ce dernier. Le principal vestige imputable au dauphin est un étroit donjon circulaire élevé au sommet de l'éperon. Il relève d'un modèle qui se diffuse en Auvergne après 1212, suite à l'intervention du roi Philippe Auguste. Un rempart suivant le contour du rocher délimitait une basse-cour. Vers 1450, un corps de logis élevé à l'intérieur de cette enceinte est représenté dans l'armorial de Revel. Il semble en subsister des éléments en surplomb de la place de l'église. Le rocher lui-même fut retaillé pour accentuer la mise en défense. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, un second corps de logis, à fonction résidentielle, est construit en contrebas du rocher, sans doute par le nouveau seigneur de Saint-Florent. Adossé au rocher, le logis quadrangulaire superpose deux vastes salles voûtées d'ogives et largement éclairées. On accède à la salle des peintures par une porte s'ouvrant sous un arc brisé soigneusement appareillé. Cette salle est l'aula, vaste salle d'apparat dotée de 8 baies couverte d'une remarquable voûte d'ogive à 12 quartiers rayonnants. Le décor se répartit entre la sculpture des culots supportant les nervures et les peintures réalisées entre 1364 et 1370. Le décor peint fut identifié en 1862 par les artistes d'Auvergne et Maioli, alors employés à la décoration de l'église Saint-Austremoine d'Issoire. C'est la seule représentation française d'une version du roman de Tristan et Iseut et plus largement, la plus vaste évocation d'un roman de chevalerie, thème de prédilection des commanditaires laïcs de la seconde partie du Moyen-Âge. Sur trois parois, sont conservés en partie haute 11 tableaux superposés, séparés par des modillons en trompe-l'œil et des légendes rédigées en prose française. Sur un fond de ciel rouge réalisé à la fresque, la mise en scène des combats effectuée à la détrempe, use de détails réalistes et cessée à la perspective. La paroi nord illustre le combat de Branor le Brun, chevalier de la Table Ronde et du terrible Carados. Sur le registre supérieur, Palamède vient au secours de Tristan, ligoté par les cavaliers de la Fée Morgain dans la périlleuse forêt, symbolisée par des arbres stylisés et tous uniques. Développée sur de vastes surfaces planes, la composition s'adapte aussi aux espaces restreints des voûtes et des ébrasements des baies. En paroi sud, c'est précisément le cas de la scène du Verger, lieu du célèbre rendez-vous de Tristan et Iseut près du château du roi Marc. À la fin du Moyen-Âge, un quartier se développe entre rivière et rocher, autour de la chapelle castrale, actuelle église paroissiale reconstruite au XIXe siècle. Le tracé d'une enceinte se repère encore en grande partie formée de l'alignement des maisons accolées les unes aux autres. Le village se développe ensuite de part et d'autre de la rivière jusqu'au jardin, verger et pigeonnier circulaire à toiture conique en lauzes.